3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu peux afficher, s'il te plaît, Marion, merci. Il me reste 13 minutes. Donc, ouvrez bien les yeux, ça va zapper. Je vous ai mis en premier deux versets qui sont tellement importants dans la Bible. Le premier verset de la Bible, de la livre de la Genèse, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Et c'est vrai que c'est bien, on s'en souvient souvent en tant que chrétien, que Dieu a créé la terre et l'univers. Dieu est à l'origine de l'univers. Et en fait, ce verset nous dit que l'univers a eu un commencement. Il n'a pas toujours existé. Et c'est formidable, j'avais fait un message une fois là-dessus, que la science, notamment la physique quantique, etc., et bien d'autres choses, l'astronomie, montrent que l'univers entier, dans toutes ces galaxies actuelles, etc., est sorti de rien, d'un point minuscule. Et puis même, il y avait quelque chose avant, mais on ne sait pas quoi. Scientifiquement, on ne peut pas le dire. Mais le chrétien sait que c'était Dieu. Et donc l'univers entier a eu un commencement. Mais il y a aussi cette parole forte de Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, 14, qui nous dit « Alors viendra la fin ». Et cette parole de Jésus nous dit « Tout ce que vous voyez là aujourd'hui, la façon dont ça fonctionne, la façon dont le monde tourne, tout ça, ça aura une fin. Ça ne va pas durer toujours ». Et des fois, on est heureux de ça parce qu'on se dit, mais finalement, comme on sent que ça tourne plutôt comme une roue voilée actuellement, jusqu'à quand quoi ? Jusqu'à quand ça va durer ? Jusqu'à quand la souffrance ? Jusqu'à quand la douleur ? Jusqu'à quand la maladie ? Jusqu'à quand la méchanceté, la guerre et la torture, et etc., etc. Et Jésus proclame, alors viendra la fin. Il y aura une fin à tout ça. Et gloire à Dieu. C'est quelque chose d'important de le rappeler. Et donc, j'ai mis ces deux premiers versets en premier pour qu'on réalise que la vie de notre communauté, pour que vous réalisiez, que nous réalisions que la vie de notre famille, que notre vie personnelle, elle s'inscrit dans le temps entre un commencement et une fin. Alors, notre commencement personnel, c'est plutôt à notre naissance, et puis notre fin personnelle, ce sera, c'est sûr, le jour de notre mort. Mais toute cette histoire-là, elle s'inscrit dans un commencement et une fin que Dieu a fixé d'avance. Parce que de la même façon que Dieu a fixé quand le début de l'univers a commencé, et donc le début du temps, Dieu a fixé d'avance aussi le jour de la fin. Et ça, c'est quelque chose de rassurant pour le chrétien, de savoir que Dieu connaît tout et est en contrôle de tout. Et que le monde n'est pas livré à l'aveuglette, mais qu'il y a un sens, il y a une histoire. Et que mon histoire, que ton histoire, elle s'inscrit dans cette grande histoire de Dieu pour l'humanité. L'homme n'est pas que fait de poussière. C'est vrai que Jésus l'a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais l'homme n'est pas fait que de poussière. L'homme est une créature faite pour l'éternité. Et c'est pour ça qu'on sent dans nos cœurs que Sylvain décrivait bien tout à l'heure, quand la première fois il a ressenti la présence de Dieu, c'est cette résonance intérieure de notre âme qui est faite pour l'éternité. Et c'est pour ça qu'on n'aime pas la mort, j'allais dire, non seulement parce que c'est une séparation, mais parce que ça ne répond pas à notre vocation humaine éternelle. Et c'est bien raisonner, de penser à tout ça face à ces deux versets qui nous mettent devant la réalité des choses. Le monde a une histoire, nous avons chacun une histoire qui s'inscrit dans cette histoire. Alors on va parler un petit peu et très rapidement ce matin de la fin des temps, de la fin de toutes choses, comment ça va se passer. Et je voudrais, il faudrait un enseignement complet qu'on a déjà fait lors d'études bibliques, mais je voudrais fixer un petit peu plus ce matin, focaliser plus sur un événement de la fin des temps qui va se produire et qu'on appelle le retour de Jésus. Jésus va revenir. Il y a cette parole forte dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1. C'est en fait après la résurrection, on a parlé, on a célébré avec le pain et le vin la mort et la résurrection de Jésus. Jésus est mort, Jésus est sorti du tombeau vivant, et puis quelques temps après, une quarantaine de jours, il est monté aux cieux. C'est ce qu'on célèbre quand on fête l'ascension. Et le jour où Jésus monte au ciel, où il est actuellement, en ce moment, assis à la droite de Dieu le Père, le jour où Jésus monte au ciel, il y a les disciples qui sont là, la tête en l'air, en train de le voir monter, et sans doute l'air bête, un peu béat, les bouches ouvertes, là, en disant, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi ? Il s'en va. Et il y a un ange, il y a une voix qui apparaît, qui se fait entendre et qui dit, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Ce Jésus qui est parti comme ça, et bien un jour il va revenir comme ça. Alors ça c'est le Jésus qui est parti, on connaît, ça s'inscrit dans l'histoire, ça a été montré. Mais ce Jésus qui va revenir, on est encore dans l'attente, on est encore dans « Waouh, mais comment ça va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Ça semble fou, quoi. » Comme ça, il va descendre de la même façon. Oui, il est monté, il descendra. C'est génial. Je ne savais pas qu'il y avait un ascenseur pour le ciel, hein, mais en tout cas, de temps en temps, il y a un ascenseur comme ça. Alors, quand on en parle comme ça, et si vous en parlez aux gens dans la rue ou aux gens à votre boulot, vous allez vous faire rire au nez, hein. Ah bon, Jésus va revenir, ouh là là, qu'est-ce que tu as fumé aujourd'hui ? Mais en fait, c'est une croyance et c'est une foi, c'est une vérité qui est connue depuis les origines du christianisme. Mais c'est tellement improbable humainement qu'on en parle peu dans le christianisme, mais c'est une vérité essentielle que Jésus va redescendre, va revenir. Et j'ai pris bon, comme exemple... ce qu'on appelle le symbole des apôtres. Le symbole des apôtres, c'est une des toutes premières confessions de foi post-biblique. Le verset qu'on a lu avant, c'est la Bible qui nous dit « il va revenir ». Et la foi des premiers chrétiens, elle est dite là, en fait. C'est le symbole des apôtres, on appelle ça. Et c'est ceux qui sont allés dans des églises traditionnelles l'ont appris par cœur, en fait, étant plus jeune. « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant ». Créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, c'est-à-dire des chrétiens, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Est-ce qu'on peut dire Amen ? Ces trois, quatre petits mots, là, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra, d'où il reviendra. Et c'est extraordinaire de savoir que nous sommes dans ce temps d'attente. Nous sommes dans ce temps d'attente. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit concernant le retour de Jésus ? Rapidement. Le retour de Jésus-Christ sera un retour personnel, corporel et visible. C'est pas quelque chose, c'est pas un esprit qui va redescendre, vous savez ? C'est bien le Jésus en chair et en os qui a vécu sur terre, qui est le Fils de Dieu et qui va revenir de la même façon. Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, verset 7, ce retour nous est décrit comme ça. Voici, il vient avec les nuées, c'est-à-dire les nuages du ciel, et tout œil le verra. Un indice, il revient du ciel, mais tout œil le verra. Alors moi, au début, je croyais qu'il allait revenir en France, puis que les Américains, ils ne le verraient pas. Eh bien non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. En fait, il y a d'autres textes que je n'ai pas mis, mais qui précisent où est-ce qu'il va revenir. « Ses pieds vont se poser, dit le prophète Zacharie, sur le mont des Oliviers. » extraordinaire. Mais tout œil le verra. Alors, quand je me suis converti il y a une trentaine d'années, quand je suis devenu chrétien il y a une trentaine d'années, je me disais, mais comment c'est possible? Peut-être qu'il y aura des caméras de télé. Mais ceux qui n'avaient pas la télé, comment ils faisaient pour croire que Jésus allait revenir, hein, il y a 100 ans, que Jésus allait revenir et puis que tout œil allait pouvoir le voir? Moi, je crois que toutes les caméras, tout l'Internet, tout va être focalisé et que tout œil va le voir quand ses pieds vont se poser sur le mont des Oliviers à Jérusalem. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Un archange, c'est un super ange. Hein, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. C'est l'apôtre Paul qui nous l'affirme. Le retour de Jésus-Christ, il va être soudain. Quelques versets. Jésus lui-même parle de sa seconde venue et dit « Car le Fils de l'homme, il se décrit lui-même comme ça, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. » Donc ce n'est pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on y pense. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Hein, c'est décrit dans les versets, mais ça veut dire que le monde suit son cours, que tout le monde a son train-train, métro, boulot, dodo, qu'on est tous pris dans le train-train de la vie, et dans les soucis de ce monde, et dans les difficultés de ce monde, et dans les joies de ce monde, et dans les plaisirs de ce monde, et que finalement, eh bien, cette chose va venir comme ça. L'apôtre Pierre, dans sa lettre, il le dit, le jour du Seigneur, c'est-à-dire son retour, viendra comme un voleur. Dieu n'est pas un voleur, c'est une image. Il viendra comme un voleur. C'est-à-dire que si vous saviez quand le voleur allait venir chez vous, ben vous l'attendriez avec, je ne sais pas quoi, un pistolet, un couteau, l'alarme, le téléphone portable branché sur le 17 ou je ne sais pas quoi. Mais d'accord ? Mais non, le voleur, on ne sait pas quand il vient. Il vient toujours à un moment où on ne s'y attend pas. Et ben Jésus va revenir de cette façon-là. On n'attendra pas et là, tchac ! Et certains qui vont être là vont dire « Mais non, c'est pas possible, c'est pas aujourd'hui. » Eh bien si, c'est aujourd'hui. Et alors Jésus va dire quand même donc à ses disciples « Ben vous aussi, soyez prêts. Soyez prêts. » Ça c'est un premier encouragement pour chacun de nous. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? On a déjà raconté que Cathy, quand elle était enfant, elle a été éduquée dans la foi chrétienne et on lui parlait du retour de Jésus et que Jésus allait peut-être revenir à tout moment. Alors quand elle se couchait, elle prenait toujours sa robe de chambre à côté d'elle. Hein, je crois que tu l'as nouée même des fois, hein, tu m'avais dit, il me semble, à ton bras, pour qu'au cas où Jésus revienne cette nuit-là, elle puisse vite mettre sa robe de chambre pour l'accueillir. Hein, c'est joli la foi des enfants. Soyez prêts, soyez prêts. Le retour de Christ, même s'il viendra comme un voleur, même si on ne saura pas quand ça va être, et que ce n'est pas la peine de faire des spéculations, hein, comme les sectes le font, les témoins de Jéhovah, en leur temps, quand ils étaient assez déviants, les adventistes l'ont fait, etc. Ils ont calculé tout ça. Certains membres de sectes ont tout vendu parce qu'on leur avait dit « c'est le telle date de 1975 qui va revenir ». Et à ce moment-là, ils sont montés sur une montagne pour accueillir Jésus. Sauf que ce n'était pas ce moment-là. Donc, pas de spéculation sur quand il va revenir. Ce n'est pas le but. Ça, c'est les sectes qui le font. Mais, quand même, sa venue va être précédée de certains signes. Alors, je ne vais pas tous les citer. J'en ai pris une certaine liste. Jésus va donner un indice, déjà. Il va dire, il faut premièrement que la bonne nouvelle, l'évangile, soit prêchée à toutes les nations du monde. Je vous rappelle que là, on est il y a 2000 ans, Jésus a 12 apôtres, 12 disciples avec lui, plus quelques-uns autour, plus les femmes, etc. Donc ça fait un groupe de moins de 100 personnes, hein, dans un petit village perdu là-haut, dans un petit pays perdu, Israël. Et il leur dit, mais je ne reviendrai pas tant que mon évangile, ma bonne nouvelle, n'aura pas été prêchée dans toutes les nations. Ça, c'est un premier signe. Et ce signe-là est bientôt accompli. La Bible est traduite dans des centaines de langues. Il y a encore quelques langues de petites tribus qui n'ont pas encore leur Bible et qui sont en cours de traduction. mais on est presque au moment où dans toutes les nations on aura proclamé l'évangile. À un autre moment, Jésus va dire à ses disciples, c'est dans le même discours, « Et si le Seigneur Dieu donc n'avait abrégé ses jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. » Là, Jésus évoque une période de l'histoire qui va être une période terrible, une période qu'on appelle parfois la grande tribulation, une période d'épreuve terrible pour les chrétiens, où de nouveau les chrétiens vont être mis à mort, de nouveau les chrétiens vont être persécutés, où le monde entier va être sans dessus dessous, où ça va être une espèce de dictature mondiale incroyable, on va y revenir. Et Jésus dit, cette période-là qui va venir sur le monde avant que je revienne, ça va être une période terrible. Et on en a des signes annonciateurs dans l'évolution. Hein, quand moi je me suis converti il y a 30 ans et qu'on me parlait de dictature mondiale, je me disais, oh là, ils vont un peu loin ceux-là, hein, d'accord, on a eu Hitler, mais jamais ça pourra arriver, la mondialisation, c'était un mot qui n'existait même pas. Et puis l'idée de mondialisation, de gouvernement mondial, de Nations Unies qui supervisent tout ça, petit à petit ça fait son chemin. Pour une super dictature. Et Jésus dit que ça va être un temps terrible et que le Seigneur a abrégé ses jours à cause des élus. Les élus, c'est les croyants que Dieu a élus, qui sont chrétiens, qui marchent avec lui. Donc ça veut dire que dans cette même période, ben, il va y avoir des élus et qu'à cause des chrétiens qui seront là, Dieu va abréger. Tellement c'est quelque chose de terrible. Un autre signe que Jésus a donné, qui ne reviendrait pas avant que ça se produise, il dit, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Alors ça, il y en a eu un paquet déjà. Hein? Depuis 2000 ans, des faux Christ et des faux prophètes qui se sont levés, il y en a eu énormément, et ça continue. Moi, j'imaginais que l'histoire des sectes et des fausses religions, tout ça, ça finirait par avoir un terme. Eh bien non, Jésus dit qu'il y en aura jusqu'au bout des gens qui vont se lever. Donc soyons prudents dans ce que nous entendons, soyons prudents dans ce que nous lisons. Avec le web maintenant, avec Internet, on est en contact avec toutes sortes de doctrines, de théories, de personnes qui peuvent être considérées parfois comme des faux Christ ou des faux prophètes. Mais après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Donc après ce grand moment de tribulation, Jésus va décrire quelque chose qui est difficile à expliquer. Je ne vous expliquerai pas parce que je ne comprends pas tout de ça. Mais en tout cas, il parle bien de signes dans les astres, de signes dans l'univers, de signes dans les planètes. Il y a des choses un peu complexes là qui sont décrites, mais donc il y a des signes au niveau de, comment on dit, astronomiques qui vont se produire dans cette période-là. Alors, certains chrétiens essaient aujourd'hui d'en voir de ces signes, de se dire, mais telle chose, tout telle autre, telle éclipse à tel moment, est-ce que c'est pas ça? Moi, à mon avis, ça parle, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça parle de choses beaucoup plus fortes, comme s'il va y avoir des choses, des cataclysmes, est-ce que c'est en rapport avec le réchauffement, est-ce que c'est, j'en sais rien, mais en tout cas, il y aura des signes comme ça. Et ceux-là, à mon avis, ne sont pas encore très visibles. Et puis, l'apôtre Paul nous décrit ce moment-là aussi, qui précède la venue de Jésus, en disant, « Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » L'impie, dans la Bible, il est parfois décrit autrement. Il est décrit par un terme qu'on connaît tous, hein, l'antichrist. C'est cette espèce de dictateur mondial, cette espèce d'anti-dieu qui va s'installer sur le trône de Dieu, quelque part il nous est dit, qui va se faire adorer, qui va se faire prendre pour Dieu, en fait. Et c'est là où Jésus va revenir, qu'il va le détruire par le souffle de sa bouche. On présente souvent, et à raison, un Jésus gentil, un Jésus plein de grâce, plein d'amour. On en a beaucoup parlé ce matin. Mais Jésus, c'est aussi un souffle destructeur. C'est aussi, on le disait tout à l'heure, il va revenir pour juger. Et Jésus, c'est aussi cette main de jugement de Dieu. Mais il ne vient pas pour juger et détruire ceux qui sont ses enfants, ceux qui sont ses brebis, mais pour l'impie et tous ceux qui suivent l'impie. Donc lui, il n'est pas encore là, ou en tout cas, il n'est pas encore manifesté. Mais l'apôtre Jean va dire, oui, mais vous avez entendu dire qu'un antichrist viendra, mais il y a déjà des antichrists. Parce que des petits antichrists, entre guillemets, il y en a déjà eu. Et j'ai cité Hitler, c'en est un parmi bien d'autres, bien sûr, de ces antichrists. Oups. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Là, ça évoque une période où toutes les nations de la terre vont se liguer contre Israël. Bon, Israël n'a pas déjà très bonne presse dans le monde en ce moment, mais avec des hauts et des bas, comme toujours dans l'histoire du monde, mais il y aura un moment où les nations n'en pourront plus de cette espèce de nation d'Israël, de cette ville qui pose des problèmes à tout le monde, et donc toutes les nations voudront se liguer contre Israël. Et là, quand on regarde l'actualité, on a déjà des échos de ça, je veux dire, c'est écrit. Et c'est quand même extraordinaire que, à longueur de journée, on nous rabâche sur ce qui se passe au Moyen-Orient, en Israël, en Palestine, à Jérusalem, etc. quoi. Mais Jésus le dit, « En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Là, je voudrais m'arrêter 2 minutes sur ce texte. C'est un texte assez extraordinaire. C'est un texte qui a été écrit, comme c'est noté, par le prophète Zacharie. Zacharie, il a prophétisé à peu près 500 ans avant Jésus. Hein, 500 ans avant Jésus, donc un bail quand même. Et sa prophétie est dans la Bible. C'est une des dernières des premiers textes de la première alliance. Et il nous parle déjà de ce qui va se passer à la fin des temps. Et il nous dit donc, comme je l'ai dit, les nations vont se liguer contre Israël, contre Jérusalem. Et alors il va y avoir un événement, c'est que Dieu va répandre sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem. C'est qui ça? C'est quoi? C'est le peuple juif en fait. Hein, quand on dit la maison de David, ça veut dire la famille de David, le peuple de David, du roi David, du grand roi David. Et donc ça veut dire sur les juifs. Et donc à ce moment-là, un des signes du retour de Jésus, c'est que la maison de David et les habitants de Jérusalem, c'est-à-dire Israël et le peuple juif, vont recevoir un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, c'est Dieu qui parle, virgule, celui qu'ils ont percé. 500 ans, la crucifixion n'existait pas à l'époque. Les Romains n'étaient pas encore en Palestine. Alors je répandrai un esprit de supplication, ils se tourneront vers moi, c'est Dieu qui parle, virgule, celui qu'ils ont percé, et là on sait que c'est Jésus. Ils pleureront sur lui, sur Jésus. Donc c'est drôle comment le prophète exprime. Il dit vers moi, puis après ils pleureront vers lui, comme si il y avait déjà cette notion de la doctrine de la Trinité, quoi. C'est moi, mais c'est lui, le Père, le Fils. C'est un seul Dieu, mais en plusieurs. Enfin, c'est très drôle ce texte, très, très impressionnant. Ils pleureront vers lui, donc lui c'est qui? C'est dit, comme on pleure sur un fils unique. C'est bien sur le fils unique, sur Jésus, qu'ils vont pleurer. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. C'est impressionnant, hein? Donc un des signes va être ça. L'apôtre Paul va le décrire quand il écrit à l'église de Rome. Il parle, vous savez, du fait que l'église, la toute première église des débuts était 100% juive. Jésus était juif, Marie était juive. Ça, je ne sais pas si les antisémites aiment beaucoup, mais enfin bon, l'église était 100% juive. Donc l'antisémitisme, c'est une aberration. L'antisémitisme chrétien est une aberration. Mais bon. Mais petit à petit, du temps de l'apôtre Paul, etc., beaucoup de païens se sont convertis à l'église, et la proportion juif-païen a basculé finalement. Et beaucoup, et les églises, notamment à Rome et en Asie, donc à Éphèse, etc., étaient composées de beaucoup de juifs, mais d'une majorité de non-juifs. Et donc il y avait ce questionnement, mais pourquoi les autres juifs n'acceptent pas Jésus? Pourquoi tout Israël ne reconnaît pas en Jésus le Messie? Alors Paul va expliquer, et ça fait partie des signes des temps qui arriveront au moment de la venue de Jésus. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère. Donc c'est un mystère, c'est un peu compliqué. Afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël seulement est tombée dans l'endurcissement. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Et donc c'est cette promesse extraordinaire que une partie des Juifs accepteront que Jésus est vraiment le Messie, le Fils de Dieu. D'autres vont rejeter, mais cette partie qui rejette, elle rejettera jusqu'à un temps où ça va s'arrêter. Et jusqu'à ce que tous les gens des nations, les païens, qui doivent venir au Seigneur, qui sont des élus, seront sauvés. Et à ce moment-là, Jésus va revenir et ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Et tout Israël sera sauvé. C'est extraordinaire. Vous savez que ça aussi, c'est en marche. C'est un des signes qui est en marche. Il y a 50 ans, il y avait une seule communauté en Israël de juifs messianiques, c'est-à-dire de juifs chrétiens, entre guillemets, de juifs qui ont accepté Jésus comme Messie. Actuellement, je ne sais pas si tu as les dernières statistiques, mais ce sont des dizaines et des dizaines et des dizaines de communautés de juifs messianiques qui existent en Israël et dans le monde entier. Il y a énormément de juifs qui... Je ne dirais pas « deviennent chrétiens » parce que ça donne l'impression de changer de religion et de changer d'identité. Et ça, c'est une grave erreur. Mais de juifs qui reconnaissent en Jésus le Messie. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est déjà un signe qui est un prémisse de ce qui va se passer ensuite. Quelle sera la conséquence finale du retour de Jésus? La conséquence ultime du retour de Jésus, c'est le jugement des incroyants, on l'a dit, et c'est la récompense finale des croyants. Alors les croyants vivront avec Jésus dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre pour l'éternité. Le Dieu Père, Fils, Saint-Esprit régnera et sera adoré dans un royaume éternel où il n'y aura plus ni péché, ni tristesse, ni souffrance. Voilà ma dernière diapo. Quel est le fruit de cette vérité de la Bible qu'il nous faut rappeler régulièrement? J'ai vérifié, c'était il y a 4 ans que j'ai fait un message à ce sujet. Alors on en parle de temps en temps, hein, mais c'est bien de réinsister, on avait fait une étude biblique il n'y a pas très très longtemps aussi, sur cette vérité. Parce qu'on est tellement le nez dans le guidon dans notre vie quotidienne que cette vérité, elle nous aide à lever un peu la tête. Hein. Donc le fruit, ben, c'est d'abord la consolation, la persévérance. Oui, les souffrances auront une fin. Oui, ce monde de fous aura une fin. Et une fin à la fois dramatique et glorieuse. Et donc ça nous aide à persévérer, à tenir bon. Ça nous aide à discerner concernant les jours que nous vivons. Ça nous aide à comprendre. On pourrait avoir peur un peu de ce qui se passe. Est-ce qu'il n'y a pas un fada qui un jour va appuyer sur le bouton, hein, et que ça va être le cataclysme, etc. On pourrait vivre dans la crainte ou ne pas savoir ce qui se passe, croire que ce monde est devenu fou. Oui, ce monde est devenu fou, mais il y a un Dieu au-dessus de tout ça qui n'a pas perdu les commandes, il n'a pas lâché la manette, hein, et on sait que cette histoire, elle va vers un bien. Voilà, donc ça nous aide à discerner où on en est. Ça nous aide à la foi et à l'attente joyeuse de son retour. Je pense qu'on peut célébrer parce que Jésus va revenir. On peut célébrer et être joyeux parce qu'il va revenir. Un des fruits de cette vérité, c'est le zèle, c'est-à-dire l'enthousiasme pour l'évangélisation du monde. Frères et sœurs, il faut qu'on évangélise, il faut qu'on témoigne, il faut que les gens comprennent que Jésus est le Sauveur, qu'il n'y a pas d'autre issue, parce que sinon le jugement s'abattra sur eux. Et ça, cette vérité que l'histoire du monde a une fin et que la patience de Dieu, parce qu'en fait, ce qui fait que Dieu ne revient pas tout de suite, que Jésus ne revient pas tout de suite, que Dieu n'arrête pas tout de suite, d'autres versets de la Bible disent que c'est la patience de Dieu. Dieu attend jusqu'à ce que le maximum d'êtres humains se repentent et viennent au salut. Mais il faut qu'on leur témoigne. Comment entendront-ils parler si personne ne parle? N'ouvre la bouche. La louange et l'adoration. du Dieu souverain, au Dieu souverain. C'est vrai que c'est extraordinaire de savoir que cette histoire du monde aura une fin et que Jésus va revenir. Ça doit nous remplir de louanges et d'adoration. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il n'a pas perdu les pédales, il n'a pas perdu la manette. Il est en contrôle dans l'histoire de l'humanité. Et il mène tout à bonne fin et la Bible nous décrit bien les choses. Voilà. Alors, il y a le cri qui vient de l'Église dans l'Apocalypse. Hein, c'est à la toute fin de la Bible. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble ? Amen. Viens, Seigneur Jésus. Il n'a pas entendu, là. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Voilà. Maranatha, c'est ce que ça veut dire, en fait. Hein. Ça veut dire « Viens, Seigneur ». En araméen, la langue proche de l'hébreu que Jésus parlait, Maranatha. Voilà, c'est fini.